Alors le thème de ce dimanche était tout choisi, l'ascension, il ne restait plus qu'à savoir ce qu'on allait y mettre dedans. Voilà quelques réflexions qui me sont venues cette semaine que je vous livre. L'ascension, vivre l'absence. Alors dans mes lectures aussi des derniers temps, j'ai lu un auteur qui s'appelle Christian Bobin, qui est un poète contemporain, un écrivain. Et dans un de ses livres intitulé « La plus que vive », voilà ce qu'il dit à propos d'une de ses amies très chères. Il lui dit « On peut donner bien des choses à ceux que l'on aime, des paroles, du repos, du plaisir. Tu m'as donné le plus précieux de tout, le manque. » Il m'était impossible de me passer de toi. Ma maison mentale, ma maison de cœur était fermée à double tour. Tu as cassé les vitres. Et depuis, l'air s'y engouffre et toutes sortes de clartés. Et là, je me suis dit que toute proportion gardée, cette déclaration aurait très bien pu être celle de nos disciples à l'égard de Jésus, les jours qui ont suivi l'ascension. Vivre l'absence, vivre le manque. Le récit de l'ascension, il se trouve à deux endroits seulement en Actes, ce qu'on va lire tout de suite là, et puis à la fin de l'évangile de Luc. Que quelques mots sur cet événement coincé entre Pâques et Pentecôte. Et si nous prenions le temps ce matin de nous attarder un peu sur cet événement, qui est peut-être plus qu'un jour férié nous permettant de faire le pont et de nous évader de chez nous sur les routes bombées de voitures à la quête de changement d'air. Oui, l'ascension est peut-être bien plus que cela. Elle annonce, à mon sens, quelque chose de grandiose. Nous lisons dans Actes, au chapitre 1, du verset 1 à 14. Dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et lui dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le Mont des Oliviers, situé à environ 1 km de Jérusalem, et entrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon et Jude, le fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. L'ascension. Est-ce problématique ? On parle bien de l'élévation de Jésus dans les airs, caché sous une nuée. Alors d'abord, ce n'est pas le seul récit d'élévation dans la Bible. Il y a Élie, par exemple. Et en faisant mes recherches, j'ai appris que dans l'Empire romain, c'était très courant de vouloir rendre les empereurs comme des dieux et de leur prêter une mort assez spectaculaire. Jules César, d'ailleurs, fut le premier empereur à finir ainsi en apothéose. Alors, les scènes d'ascension étaient bien connues dans la culture juive et dans la culture gréco-romaine. Mais les lecteurs ne se fixaient pas tant sur la compréhension matérialiste de ce qui avait pu se passer, mais captaient le message que cet homme avait rejoint le monde divin. Alors, où est passé Jésus ? Debout, les deux pieds sur terre, les apôtres s'interrogent. Ils regardent le ciel en se demandant « Où est passé Jésus ?» Ce Jésus si proche d'eux, tout à coup si lointain, ils regardent Jésus disparaître, ce Jésus qu'ils ont vu crucifié, qu'ils ont vu ressusciter, ce Jésus qui s'est montré à eux pendant plusieurs jours, les enseignant, les réconfortant. Et là, il leur promet « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Où est passé Jésus ? Comment continuer à croire ? D'où nous viendra la force qui nous permettra de reprendre la route ? Alors jusque-là, si vous vous souvenez, avant, les disciples n'avaient pas eu de répit. Hein. Ils enchaînaient. Hein. Alors, les guérisons, l'enseignement, la foule, le procès, la mise à mort, la résurrection, pendant 40 jours, le chemin d'Emmaüs, Jésus se montre à eux et les enseigne encore. Et pouf, pas un moment de répit. Et là, l'absence. Où est passé Jésus ? Il a pourtant bien pris le temps de leur expliquer. Hein. Les disciples, leur dit-il, doivent rester à Jérusalem pour attendre la force de l'Esprit. Mais arrêtons-nous 30 secondes. Les disciples ont certainement eu l'impression d'avoir fait deux pas en avant, un pas en arrière. Déboussolés, bouleversés, ils lèvent les yeux au ciel. Ça nous arrive aussi parfois à nous d'être déboussolés, bouleversés et de lever les yeux au ciel. Le silence de Dieu. Les disciples vont vivre l'absence. L'ascension va creuser en eux encore un peu plus le manque et surtout le désir de rencontrer ce Dieu et de lui faire de la place dans leur cœur. Ainsi, la nuée ne devient plus finalement un moyen de transport, mais cet espace de révélation, un espace qui va permettre la venue du souffle de Dieu. Luc, c'est pas anodin, place son récit de l'ascension à la fin de l'évangile et il en fait pour moi un mouvement de transformation. Un mouvement de transformation entre le temps de Jésus et le temps de l'Église. L'ascension est en train de déplacer le message de Jésus qui aurait pu rester à la Palestine pour être reconnu partout dans le monde. Ouverture, projet, grandiose, n'est-ce pas ? L'ascension ouvre, certes, l'absence du Christ, mais pas son abandon. Son ascension sera une condition nécessaire pour que l'Esprit puisse animer et diriger la nouvelle communauté de croyants. L'ascension dit, à mon sens, au moins trois choses. Le retour de Christ auprès de son Père, le début de son ministère de médiateur pour nous, et enfin, le début de la communauté de croyants. Je ne l'ai pas projeté, mais il existe une gravure de Dürer qui représente l'ascension du Christ. Et c'est assez surprenant, on voit tous les disciples regarder le Christ qui s'élève au ciel. Et Dürer a placé à côté des disciples deux traces, deux empreintes de Jésus. Les disciples ne le voient pas. Ils regardent au ciel. Jésus, non, ne peut pas rester parmi eux. Pour que les disciples grandissent, pour que nous puissions grandir, devenir une communauté de croyants, Jésus doit s'en aller au Père. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Alors, comment réagissent les apôtres ? L'Évangile nous le dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire entre l'ascension et Pentecôte ? Ils vont paniquer ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non. Ce qu'ils vont faire, c'est un exemple aussi pour nous à suivre, je trouve. On nous dit dans le texte qu'ils persévèrent dans la prière, ils se réunissent, ils s'adressent à Dieu, ils cherchent sa volonté, ils règlent les dernières questions pratiques du remplacement de Judas. En bref, ils agissent. Ils prient et ils agissent. Alors ils attendent, hein. Ils attendent ce souffle de l'Esprit que Jésus leur a promis, mais ils n'attendent pas comme ça passivement. Ils attendent et ils agissent. Et dans cet intervalle de temps, les disciples mettent leur foi en action. Foi dans le sens confiance, confiance dans les promesses de Jésus. Jésus a construit un lien vital en donnant ainsi l'assurance d'une présence. À partir de l'ascension, Jésus n'est plus physiquement là à leur côté, il faut bien qu'on s'en rende compte, mais une nouvelle ère s'ouvre. Les disciples peuvent poursuivre le chemin. Et en quelque sorte, me suis-je dit, ils sont appelés à devenir adultes. Eh bien oui, sans tuteur présent à leur côté, mais avec des racines et des ailes. Le départ du Christ insuffle la mission, la vocation pour apporter l'espérance que les disciples eux-mêmes vont être porteurs. L'absence du Christ va donner l'occasion d'exercer, va donner l'occasion aux disciples d'exercer leur pleine responsabilité d'enfants de Dieu et de porteurs d'espérance. Le flambeau est donné. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Il y a une invitation ici des anges à se recentrer sur terre. Oui, nous sommes un relais entre ciel et terre, et c'est ce que dit l'Ascension. Mais alors, quelle est la promesse ? Quelle est cette force dont Jésus parle qui nous sera donnée ? Quel est cet esprit dont Jésus parle ? C'est le même esprit qui s'est manifesté au baptême de Jésus ? C'est le même esprit qui l'a animé pour prêcher ? Pour guérir ? Vraiment, c'est ce même esprit qui nous est promis ? On ne parle pas d'un esprit d'équipe hein, qu'on peut avoir entre nous, ni un esprit de plénitude qui nous soit obtenu à force d'heures acharnées de yoga ou de méditation. Hein. Non, non, on parle là de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Vous recevrez une puissance surnaturelle quand l'Esprit Saint surviendra sur vous. L'Esprit de Dieu n'est pas, à mon sens, une puissance surnaturelle qui nous est donnée. Non, il donne la puissance de se mettre en marche. Vous recevrez les moyens d'être témoins d'espérance. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Et voilà ce qu'il nous dit encore à nous aujourd'hui. Vous recevrez les moyens d'être témoins d'espérance. Et l'effet central, c'est le témoignage au monde. Pas un esprit qui va nous faire du bien pour notre petite personne parce qu'on en a besoin. C'est ça aussi, mais ce n'est pas fondamentalement l'effet central de l'ascension. Le don de l'esprit va nous donner le moyen d'être témoin au monde. Et témoin de quoi ? Témoin de l'espérance. Et avec l'ascension surgit au moins, à mon sens, une quadruple force. Avec l'esprit, il va surgir quatre choses. L'Esprit donne une mission unique, être ses témoins. Il confie un message, la bonne nouvelle. Il procure une source inépuisable, l'aide permanente de Dieu. Et il transmet une joie que nos mots ne peuvent décrire, ni exprimer. Oui, l'Esprit de Dieu nous aide à vivre l'absence physique de notre Sauveur. Il viendra sur vous pour que vous trouviez en vous ce que vous cherchiez en levant les yeux au ciel. L'ascension, à mon sens, c'est un tournant capital. Le ciel est ouvert. À partir de l'ascension, l'histoire bascule, le relais est donné. Avec le don de l'Esprit, nous avons une présence permanente du Père et du Fils, une présence qui enseigne, qui témoigne, qui convainc, qui régénère, nous dit Jésus, qui sanctifie, qui console. Mais je ne veux pas empiéter sur la prédication de la Pentecôte, parce que c'est Christian Hégé qui s'y colle. Alors pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Non, Jésus ne pouvait pas rester à nos côtés, c'est bien ce que dit l'Ascension. Jésus doit partir pour que les disciples, pour que nous puissions grandir, devenir adultes et devenir la communauté qui porte l'espérance au monde entier, qui porte l'espérance de son royaume. Dans le film que vous pourrez revoir, c'est dans le film Hiver 54, qui raconte l'histoire de l'abbé Pierre. À un moment donné, ils sont en train de trier des vêtements, et il y a un des SDF qui demande au gars qui est en train de trier, il lui dit « Mais pourquoi il fait tout ça, l'abbé? À quoi ça sert ?» Et le gars lui répond « L'espoir, Protodo, l'espoir. » Ce qu'il est bien question de ça, d'espérance, d'espoir. Nous ne sommes pas seuls, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous équipe. Puissance qui va faire couler en nous la force de pouvoir transmettre la vie autour de nous. C'est un don de Dieu. Alors, que nous reste-t-il aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de dire la même chose que les disciples le jour de l'Ascension. Je vais conclure avec ce poème qui dit les choses mieux que moi. Il y en a qui savent bien manier les mots. Parce que Jésus est monté et est assis à la droite de Dieu, un monde nouveau fait irruption dans le nôtre. Justice viendra pour les pauvres, liberté pour le prisonnier, guérison pour le malade. Parce que Jésus est monté et est assis à la droite de Dieu, une nouvelle communauté a été formée. Amour, bienveillance fleuriront dans l'espérance. Oui, les abandonnés et les rejetés sont les bienvenus. Tout le monde trouvera, à un moment donné, un lieu d'appartenance. Parce que Jésus est monté et est assis à la droite de Dieu, une nouvelle création a commencé à germer. Tout ce qui a été déformé est en train d'être restauré. Tout ce qui a été corrompu est en train d'être renouvelé. Tout ce qui a été brisé est en train de se réparer. Parce que Jésus est monté et est assis à la droite de Dieu, le monde nouveau commence. Et tu y as ta part. Amen.